Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Yves Météro. Bonjour, monsieur Météro, ancien maire de La Baule, ancien président de Cap Atlantique. Et vous venez de publier un livre tant attendu de souvenirs, notamment, mais aussi de réflexions, sur les tribulations, qui s'appelle Les tribulations d'un maire de France, de La Baule au monde. C'est publié aux éditions L'Harmattan. Dans ce livre, Yves Météro, vous rappelez votre jeunesse, votre attachement à La Baule, votre carrière à l'ACMAT, vos voyages, l'international, la fonction de maire, votre passion pour La Baule, ce que vous avez fait. Donc ça amène plusieurs sujets qui permettent de décomposer un peu tout cela finalement en trois parties, entre l'international, la vie politique intérieure, à La Baule en tant que maire, et puis La Baule en tant que commune. Et ce que vous voyez comme avenir pour cette commune, donc on a beaucoup de choses à dire. Le seul regret qu'il y a dans ce livre, c'est qu'on est un peu frustré parfois. Vous expliquez beaucoup de choses sur ce que vous avez fait, et on aurait aimé avoir davantage de commentaires, d'analyses, nous emmener sur des pistes de réflexion, soit en politique internationale ou en politique intérieure, mais vous ne l'avez pas fait.
Oui, c'était pas vraiment un livre sur mes idées quant à la politique actuelle, ni internationale, où il se passe effectivement énormément de choses, puisque nous sommes au bord d'une crise ou d'une guerre internationale grave. C'était plutôt d'essayer à coucher des mémoires et démontrer que La Baule, où j'ai passé une jeunesse très heureuse, où j'ai passé une vie, en fait, très heureuse, je lui rendais un petit peu quand je pouvais, en ayant la confiance de mes concitoyens, puisque j'ai été élu pendant 25 ans et qu'auparavant, j'avais passé 17 ans avec Olivier Guichard à me former à la vie publique.
Le livre commence finalement avec l'élection de Jacques Chirac. En 1995.
Oui.
Vous auriez peut-être pu le faire commencer en 1981 avec l'élection de François Mitterrand, qui correspondait peut-être à une envie de faire de la politique et de vous battre dans l'opposition. C'était non. Au fond de vous, non ?
Non, l'envie de faire de la politique m'est venue en mai 68. J'avais 22 ans et demi.
Donc c'était 81 d'une autre manière.
Oui, mais c'était pas le même Mitterrand. Puisqu'il faut se rappeler
c'était
que...
C'était
oui, et puis il faut se rappeler que Mitterrand, en 68... et Mendès France avait été évincé en fait par le Parti communiste qui à l'époque était le premier parti de France et par les groupes formés de Cohn-Bendit dont j'ai été un élève de son frère à Saint-Nazaire au lycée Aristide Briand, de Sauvageau et de tous ceux qui étaient en fait des fils de bourgeois, mais totalement anarchistes, et dont les communistes se méfiaient énormément parce que l'occupation de la Sorbonne et la violence menée par ces jeunes anarchistes n'était pas du tout dans la ligne du parti. Et Mitterrand a essayé de reprendre la main, et finalement il n'y a pas réussi. Et en fin de compte, il a été obligé d'attendre 1981, une élection contre Giscard, grâce aussi à Jacques Chirac qui lui a donné un bon coup de main, pour se faire élire président de la République française.
À Chirac, il a donné un bon coup de main. Déjà, ça démontre ce que vous pensez.
Oui,
Météo,
vous savez,
à quelle famille politique vous appartenez, que vous en avez voulu finalement à cette famille de gaullistes de gauche.
Je sais pas si on peut dire que Jacques Chirac était un gaulliste de gauche, c'était un radical socialiste, mais je crois qu'il détestait.
Avec la lettre de l'ancien ministre gaulliste de gauche qui avait écrit aux adhérents du RPR une époque avant 81 pour dire votez
oui,
Mitterrand et ne votez pas Giscard.
C'est un secret pour personne que Jacques Chirac ait fait voter pour Mitterrand au deuxième tour. Donc,
toujours dans cette... Est-ce que finalement, ils ne sont pas dans cette idée de se dire ça va être un tel chaos, que ça va durer 6 mois et je reprendrai le pouvoir après ?
Oui.
Péché d'orgueil ?
Oui, ça a toujours été un peu la tactique du RPF, du RPR, de l'UDR, de la majorité où les gens sont tous de droite, mais ils se détestent cordialement, individuellement.
Le sens de votre engagement politique,
oui.
Yves Météro. Il y a quelques pistes dans le livre quand vous évoquez, par exemple, ce que vous aimeriez pour la France, un peu un système comme l'Angleterre ou comme l'Espagne.
Oui, je trouve que, et pour ça, le général de Gaulle avait réalisé une constitution qui était très conforme à l'esprit français. Il faut que le président de la République soit élu au suffrage universel et qu'il le soit pour longtemps, pour lui donner la possibilité d'agir et d'être un recours en cas de difficulté dans notre pays. Le système constitutionnel hollandais ou britannique me paraît assez bon dans la mesure où le roi, à condition qu'il soit apprécié, qu'il soit aimé.
On n'a pas le choix, par définition, si c'est le roi.
Oui, mais parce que nous ne sommes pas ni anglais ni hollandais. Et les Français sont beaucoup plus frondeurs. Et on le voit bien aujourd'hui, un président de la République élu pour 5 ans est en fait en même temps un premier ministre, en même temps un chef de parti, et c'est à lui qu'on s'adresse pour n'importe quelle revendication. Et oui, ça n'est pas, à mon avis, un système heureux, car c'est un système qui se rapproche du système américain, et encore que le système américain a montré aussi ses failles lors de la dernière élection de Joe Biden.
Vous évoquez par exemple ce système sur le roi, incompatible peut-être avec un peuple de frondeurs. Regardez le peuple arabe qui est très frondeur, il aime le roi de Jordanie ou le roi du Maroc, finalement. Et, ouais. pas par la force.
Non, sans doute pas, mais ce sont des pays qui ont une longue tradition à la fois de pouvoir royal, mais en même temps, ils ont gagné leur indépendance un peu difficilement, donc ils lui en sont reconnaissants, parce que le roi a toujours été à la tête, et en même temps, le roi est le chef religieux, notamment au Maroc, de tous les croyants.
Comme en Jordanie, d'ailleurs, ils descendent tous les deux du prophète. Je vous ai posé ces questions. J'ai commencé là-dessus, ce n'est pas innocent. Pour que l'on comprenne aussi que quand vous êtes engagé en politique, ce n'était pas pour finir les fins de mois ou être invité à des avant-premières.
Non. quelqu'un dit aujourd'hui qu'autrefois, on vivait pour la politique et aujourd'hui, on vit de la politique. Moi, je suis persuadé que si je me suis engagé en politique auprès d'Olivier Guichard dès 1968, plutôt après, dès 71, où je lui ai proposé de faire sa campagne pour la mairie de La Baule en 1971, c'était vraiment parce que j'avais un goût pour la politique et un goût pour la vie publique et un goût pour également une vie publique française équilibrée.
Alors vous étiez finalement dans votre tradition politique d'une famille plutôt libérale qui était souvent à l'inverse de ce que pouvait penser une personne qui était plutôt gaulliste et plus étatiste comme Olivier Guichard. Comment vous entendiez sur le plan politique? Il y avait plus de choses qui vous unissaient que de choses qui vous séparaient?
Oui, je crois. Moi j'ai été très Algérie française à une époque.
Ben, j'y ai pensé, j'ai pas osé le dire.
Il faut le dire, il n'y a pas de raison de ne pas le dire. Dans ma jeunesse, et même en 1958...
D'ailleurs, c'est l'Algérie française qui a fait ce clivage entre ceux qui sont allés à l'UDF ensuite et au RPR ensuite.
Souvent. Voir Gérard Longuet, voir Alain Madelin, voir...
Alain Griotret, Michel Poniatowski et tous ces gens-là.
Et moi, j'étais très Algérie française, enfin... Plus exactement, je croyais à ce que de Gaulle disait quand il parlait de la France, de Dunkerque à Tamanrasset. On est beaucoup à avoir cru en cela.
Oui,
on est beaucoup à avoir vécu mai 68 après. Et moi, j'ai été profondément choqué par l'exil des Pieds-Noirs. J'ai été profondément choqué par le massacre des Harkis qu'on a laissé massacrer par le FLN et les hommes de Boumédienne, qui étaient des canailles pour la plupart.
Alors vous, quand vous faites vos études, ça vous a sans doute aussi influencé politiquement. Vous êtes intéressé aux guerres de Vendée, c'est un peu d'actualité en ce moment, et à la chouannerie aussi, bretonne.
Oui, ben je trouve que... Les guerres de Vendée.
Vous citez même Philippe de
Généré
et Renal Séché dans votre livre.
Ont généré, effectivement, les guerres de Vendée ont généré des héros. Mais c'est toujours un peu comme ça. Les circonstances de l'histoire crée des personnages exceptionnels et leur donne la possibilité d'être justement des personnages exceptionnels. J'ai vu le film de Charette hier au soir, sur Charette hier au soir, et c'est vrai que ce film, conseillé par Reynald Séché, est un excellent film qui retrace intégralement la vérité historique de cette époque. Et tous ceux qui pensent qu'il n'y avait pas eu de volonté de génocide en Vendée ne peuvent pas continuer à le dire, parce que réellement, c'est l'extermination de la Vendée qu'avait voulu la Convention à l'époque.
Alors, le fait d'être seul, d'avoir perdu votre père, vous a permis au monde du service militaire de vous rapprocher de la presqu'île.
Oui, alors j'ai fait mon service militaire en devançant l'appel en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai fait mes études secondaires après. J'avais envie, à la sortie du lycée, après mon bac,
c'était peut-être une formule très
intelligente, faire mon service militaire. Et puis j'avais envie de changer, j'avais envie un peu d'aventure, de bouleversement dans ma vie. Je m'entendais pas toujours très bien avec ma mère, parce que mon père est mort, j'avais 10 ans, et elle avait eu du mal à m'élever, nous n'avions pas tout à fait les mêmes goûts, les mêmes idées. Et en fait, j'avais décidé de partir et j'espérais même à un moment donné aller en Algérie. Et finalement, les accords d'Évian ont été signés et je suis parti au service militaire en 1962, donc alors que le putsch des quatre généraux a été un échec, mais je l'ai vécu avec une certaine forme d'intérêt. Et après, mais le référendum qu'avait souhaité De Gaulle pour l'indépendance de l'Algérie a été sans appel, puisque c'est plus de 99% de voix des Français qui ont donné l'indépendance à l'Algérie. Donc j'ai fait mon service militaire, j'ai fait mes 24 mois, et en fin de compte, je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que j'ai rencontré au cours de mon service militaire des amis, des officiers de toute nature, et notamment quand j'ai été muté à Nantes, j'avais l'occasion de me consacrer à ce que j'ai aimé au niveau de l'histoire de notre pays, les guerres de Vendée et la chouannerie bretonne.
Alors dans votre vie personnelle, il y a la rencontre avec Claudine Météro,
Oui.
Vous accompagne toujours,
oui.
Avec déjà le petit déclic qui s'est fait après une soirée au cinéma, La Chinoise de Jean-Luc Godard.
Oui,
comme quoi vous nous donnez une leçon. Si vous voulez draguer, allez voir un film nul comme ça, on attend déjà de s'intéresser. Non, mais je suis méchant, mais c'est pas un film qui a marqué l'histoire du cinéma.
Je suis tout à fait d'accord, Yannick. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je peux pas dire que c'est. Je n'ai jamais été vraiment maoïste. Et une fois après avoir vu La Chinoise, j'avais plus du tout envie ni d'être maoïste, ni d'être de gauche. Et il se trouve que j'ai rencontré Claudine ce soir-là, et puis après on s'est revus, et puis nous nous sommes mariés un an plus tard.
Et puis les premières rencontres avec Olivier Guichard, donc, qui vous en dites vraiment beaucoup de bien, il vous a vraiment beaucoup impressionné. D'ailleurs, vous dites qu'il y a deux personnes qui vous ont influencé dans votre vie, c'est Paul Le Gueux, on va revenir à lui, parce que là c'est la vie professionnelle, et en politique, Olivier Guichard. Comment se passe la rencontre quand un jeune homme, une vingtaine d'années, va voir un ancien ministre du général de Gaulle? Enfin ancien, à l'époque il était ministre
du
général de Gaulle.
Il était ministre.
Oui, ça c'est le décalage.
Il était ministre.
Déjà moi, ancien ministre du général de Gaulle, ça m'impressionnait.
Il était ministre et La Baule lui avait donné un bon score aux législatives de 67 et aux législatives de 68 après la dissolution qu'avait provoqué le général de Gaulle à son retour de Baden-Baden. Mmh. Donc Guichard, qui n'était pas très violent, s'était dit « La Baule me donne un bon score, le docteur Dubois a 76 ans, je vais lui demander... » En fait, mais c'est toujours très délicat, il l'a fait quand même avec une certaine délicatesse, de prendre sa place. Mais c'était sans compter avec les réactions du docteur Dubois, qui a refusé tout dette en lui disant que si Guichard avait l'intention de se présenter, eh bien il se présenterait aussi et qu'il essaierait de le battre. De mon côté, en 68, j'avais monté un petit groupe d'amis pour réagir contre la chienlit de mai 68. Et quand j'ai été le voir en 1960, début 71, à Guérande, dans sa permanence de Guérande. Je l'ai rencontré là où il était avec, je raconte, avec Michel Rabreau, qui allait devenir son suppléant, avec Joseph Ricordeau, qui était un ancien policier qui habitait La Baule et qu'il avait connu et qui allait devenir son homme de confiance, en quelque sorte. Et il y avait également Jean-Claude Labarre, qui était son directeur de cabinet, puisqu'il était ministre. Et je lui ai simplement proposé de mettre à sa disposition mes amis, moi-même, pour faire sa campagne municipale à La Baule, parce que j'avais une certaine admiration déjà pour l'homme que je n'avais pas vraiment rencontré. Alors il m'a regardé, il ne parlait pas beaucoup. J'ai appris d'ailleurs que... puisque j'ai lu le livre de Constance Poniatowski sur son père, enfin en partie sur son père, il avait un peu le même comportement. Il m'a dit « bah pourquoi pas ?» Et puis ça s'est arrêté là. Venez, voyez ça avec Jean-Claude Labarre, voyez ça avec Michel Rabreau, avec Joseph Ricordeau, et puis on se reverra quand vous aurez... quand vous m'aurez fait des propositions, que vous leur aurez expliqué ce que vous pensez faire pour cette élection municipale de 1971. Et puis ça s'est arrêté là, en fait. Mais il me regardait et ses yeux étaient toujours, ses yeux bleus étaient toujours très impressionnants, avec un sourire, mais c'était pas un engagement, mais j'ai senti qu'un courant passait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas forcément avec tout le monde.
Vous évoquez à un certain moment dans votre livre, dans votre jeunesse, vous avez rencontré le SAC, le Service d'Action Civique. Et il est toujours important de repréciser les choses dans l'air du temps, parce qu'évidemment, ça peut choquer beaucoup de monde aujourd'hui. Ceux qui vont lire ce livre vont se dire « Oh, mais Théro était au SAC, donc c'était peut-être... » On imagine que c'était des brigands et des tueurs. Il faut préciser qu'à l'époque, le Service d'Action Civique avait été créé par le général de Gaulle, en l'occurrence, il avait confié cela à Jacques Foccart, au moment où les communistes et la CGT s'apprêtaient à bloquer le pays.
Absolument.
Et il fallait créer une sorte de force parallèle pour aller lutter contre les communistes, pour débloquer les raffineries, débloquer les transports en commun en cas de blocage et de nécessité vitale. Et c'était le Service d'Action Civique composé de militants bénévoles. C'était à peu près ça, en résumé.
Oui, moi j'ai...
Faut le préciser pour qu'on se mette dans le contexte
historique. Olivier Guichard
m'avait
demandé d'aller aider un député UNR de l'époque, qui s'appelait Alexandre Bollot, à se faire élire à Nantes.
Suspecté d'avoir la Francisque.
Oui, alors c'était... Bon, déjà, il y avait des quelques personnes... Il y avait quelques députés, notamment Benoît Maquet, qui était député également, qui n'était pas du tout... d'accord avec Alexandre Bollot, et moi je ne savais pas trop sur qui m'appuyer. J'arrive à Nantes, et il me dit, faut aller voir le patron du SAC de Nantes, qui tenait un restaurant vietnamien rue de Santeuil, et qui effectivement...
Parce qu'il avait fait l'Indochine.
était un ancien d'Indochine, et beaucoup d'anciens d'Indochine étaient là, et également tout disposés. Il faut savoir qu'Olivier Guichard faisait partie des barons avec Jacques Foccart, avec Jacques Chaban-Delmas, avec Roger
Jacques Baumel,
avec Jacques Baumel, avec Roger Frey, et que tous ces gens-là se connaissaient très bien. Et Jacques Foccart était un homme de réseau, hein, tout le monde le sait. Le SAC m'a aidé, mais sans faire de vagues. Il faut savoir qu'il y a une différence entre le SAC dans le Midi de la France, qui s'est livré à un certain nombre de choses pas très recommandables, et le SAC du reste de la France, que Jacques Foccart dirigeait très bien.
C'était le SAC démocrate chrétien, quoi, par rapport au SAC.
Oui, enfin, si on peut qualifier les anciens d'Indochine de démocrates chrétiens. Mais en tout cas, le service d'ordre était bien fait. J'ai eu également l'appui des jeunes de l'UJP, à l'époque, puisque j'avais un de mes amis qui était en fac avec moi, qui était patron des jeunes de l'UJP. Et finalement, Alexandre Bollot, contre toute attente, et contre Loïc Lehmann de Chermont, que j'avais été voir, qui m'avait envoyé sur les roses quand je lui avais demandé de se désister, Alexandre Bollot a été élu. Et Olivier Guichard, quand je suis revenu à La Baule, m'a dit simplement « Bon, c'est bien, vous avez fait ce qu'il fallait, parfait. »
Voilà.
C'est tout.
C'est tout, voilà. Alors, c'est comme ça que le virus de la politique est né, et puis les choses se sont faites progressivement. Oui. Vie professionnelle, on va revenir après dans un autre entretien, mais on bascule après la jeunesse militante, la vie professionnelle fait baisser finalement le temps de militantisme, et au fur et à mesure que l'on avance dans l'âge, on retrouve son temps de militantisme quand on a fait sa vie professionnelle. Mais maire de La Baule, vous étiez toujours actif hein, quand vous avez été élu.
Oui. J'ai encore actif aujourd'hui.
Est-ce que ça aurait été possible? Alors, mettez. Oui. Est-ce que ça aurait été. Non, enfin, je veux dire, dans la vie professionnelle,
oui,
vous avez
bien
compris,
sûr, bien
Yves Météro. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui où la fonction de maire devient de plus en plus technique et demande de plus en plus de temps?
Oui, ça demande du temps. Mais après, c'est des questions de choix. Olivier Guichard m'avait dit une chose. Parce que je lui en ai parlé, je lui ai dit, je suis pas mal pris. Il me dit, vous savez, dans la vie, pour bien vivre, il faut être débordé. Et je l'ai écouté, et finalement, en s'organisant, je pense qu'un cadre, quand il a l'expérience des entreprises, notamment privées, comme j'ai eu l'expérience de deux entreprises privées au moins, peut mettre cette expérience au service de la vie publique également, et ça n'est pas du tout négatif, notamment en termes de management du personnel, notamment en termes de gestion financière, notamment en termes de relations humaines. Tout ça me paraît très important, et moi je déplore que pas suffisamment de cadres se lance dans la vie publique et essaye de se faire élire maire ou pour diriger des communes en France. Parce que la fonction de maire est très importante en France, et je trouve que l'expérience que l'on acquiert dans un milieu professionnel privé est irremplaçable.
Oui, mais vous savez, aujourd'hui, vous avez une trentaine d'années, vous avez votre vie de famille, vous devez travailler, vous êtes fatigué le week-end, ensuite le temps évolue, les enfants grandissent, on est stressé, on s'occupe d'eux, puis on devient grand-père, vous voyez.
Parallèlement, ce qui est extraordinaire,
c'est que... On est dans une société du temps libre, on n'a plus de temps.
Les femmes sont beaucoup plus disponibles et beaucoup plus engagées, et on trouve de plus en plus de femmes qui sont maires de leur commune.
Oui.
Mais elles
gèrent pas mieux et pas moins bien.
Non, mais elles ont leurs enfants à s'occuper, elles ont leur ménage à tenir, et finalement, je pense qu'on peut tout à fait, avec de la bonne volonté, avec un peu d'expérience, avec la volonté d'apprendre aussi, hein, on peut tout à fait... aujourd'hui dans notre pays, cumuler deux ou trois métiers. Alors je sais que ce n'est pas vraiment la tendance, mais en tout cas, moi j'ai été très heureux et j'ai vécu des périodes très heureuses justement en cumulant plusieurs activités.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce que vous avez fait pour La Baule, ce développement. Est-ce que vous l'imaginiez dès le départ ou est-ce qu'on avance finalement comme quand on est chef d'entreprise? Parce qu'on dit souvent, ça fait très bien de dire on a une vision stratégique sur 20 ans, etc. Mais dans la réalité, je vois beaucoup, on est tous pareils, les événements sont parfois tellement imprévus que l'on tâtonne. On se dit, je veux refaire le marché d'ici 5 ans, puis entre-temps, on a eu un gros problème et le budget doit être déplacé pour refaire une route. Et puis, on va vous dire, vous n'avez pas fait le marché, vous devez vous... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est du...
Il faut avoir effectivement un projet. Un projet,
oui.
C'est investir d'abord. Moi, j'ai toujours été un partisan de l'investissement qui dure, de travaux pour une ville et de permettre à la ville, à travers cet investissement qui allait durer, quand on a refait le centre-ville, l'avenue de Gaulle, le marché, une partie d'Atlantia, Escoublac, etc., etc. C'était des projets qui me paraissaient indispensables. Et puis, il y a aussi les aléas de l'histoire, comme tout à l'heure pour les grands hommes. Les aléas de l'histoire, c'est l'Erika en 2000, c'est Xynthia ensuite, et qui oblige à s'adapter et à modifier un peu ses budgets, à s'organiser pour réagir contre des événements extérieurs imprévus. Mais C'est le réengraissement de la plage qu'on m'a proposé à un moment donné, qui a été un vrai succès.
Et tous ces camions bennes qui venaient déverser des tonnes de sable, qui déplaçaient
les tonnes de sable. Oui, 300 000 mètres cubes de sable qui ont permis d'être...
Mais en tout cas,
c'est, ce qui est important, c'est justement la fondation de la communauté d'agglomération. Parce que sur les grands travaux, sur les équipements qui sont aux normes et qui coûtent très cher, comme les stations d'épuration, comme les branchements d'eau potable, comme les piscines, par exemple, eh bien là, c'est justement l'intercommunalité qui doit pouvoir les faire au service de l'ensemble des communes qui composent l'intercommunalité. C'est pas à la commune de tout faire. Il faut que l'intercommunalité prenne sa part dans les gros investissements lourds qui seront communs à tout un ensemble de tout un bassin de population.
Yves Météo, maire de La Baule, avec 5 mandats, c'est ça ?
4.
4, vous en avez mis un de plus.
Oui. Non. Le dernier, j'ai pas voulu. Bon, on m'a proposé de faire 3 ans et de démissionner. Personnellement, ça n'était pas dans mes convictions et je trouve que ça n'est pas normal de tromper les électeurs. Donc, j'avais indiqué clairement que après 25 ans, j'arrêterai. Et j'ai arrêté et j'ai passé des moments, encore une fois, très, très heureux et agréables à la tête de cette mairie où j'ai été réélu à chaque fois au premier tour.
Les tribulations d'un maire de France, c'est le titre du livre publié par Yves Météo et c'est un événement aux éditions L'Harmattan de La Baule au Monde. Dans la collection de L'Harmattan s'appelle Graveur de mémoire.
Oui.
C'est vrai que c'est aussi un livre de mémoire, mais on attend d'autres livres de votre part après, sur d'autres sujets. Il y a plein de pistes. En réalité, ce livre donne des pistes de réflexion sur plein d'autres livres plus thématiques.
Il ouvre des pistes. Moi, j'ai voulu. Je ne suis pas un écrivain. Je suis simplement quelqu'un qui a vécu une vie et qui avait envie de le mettre sur le papier. J'ai essayé de le faire dans mon style, à ma manière, peut-être un peu journalistique d'ailleurs, en essayant de faire des phrases courtes. Mais je ne suis pas un écrivain. J'ai voulu simplement que ces mémoires, au début je destinais à ma famille plutôt, aux gens que je connaissais ou à mes amis, et puis en écrivant, pendant le Covid, qui a duré quand même un certain temps avant qu'on trouve les solutions, eh bien, j'ai eu le temps de me remémorer tout ce qui a été fait dans ma jeunesse, dans ma vie professionnelle, à la mairie de La Baule, à l'intercommunalité, auprès de Dominique Baudis, où j'ai travaillé avec le défenseur des droits pendant 4 ans, à la présidence des maires de Loire-Atlantique, où j'ai pendant 7 ans été président des maires, ce qui m'a permis de connaître mieux toutes les petites communes de Loire-Atlantique et de rencontrer des maires attachants. Et puis ce que je disais, c'est que finalement, j'ai vécu une époque heureuse, je pense, une époque que nous regretterons, c'est ce que j'ai voulu traduire un petit peu, où on respectait les élus, où on respectait les gendarmes, on respectait les pompiers, on respectait finalement un certain nombre de valeurs. Et ça, ces moments-là, je ne les regretterai pas.
Les tribulations d'un maire de France, de Yves Météo. Yves Météo, donc ancien maire de La Baule, ancien président de Cap Atlantique, qui publie ce livre événement, Les tribulations d'un maire de France, aux éditions L'Harmattan. Merci Yves Météo, on a parlé de La Baule, de vie politique. On va se retrouver pour une autre émission pour parler cette fois-ci de la vie professionnelle et de l'international, parce que ça, c'est un moment très important dans votre vie. Yves Météo, le maire de La Baule, ancien maire de La Baule.